Bienvenue dans l'émission Libre Débat sur les ondes de Radio Galère 88.4. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter une série qui s'appelle Le combat ne doit pas cesser. Éloi Machoro, un super-héros pour la Kanaky. Le 12 janvier 1985, à une centaine de kilomètres de Nouméa, capitale de la Nouvelle-Calédonie, Éloi Machoro tombait sous les balles des forces de l'ordre françaises. 35 ans après, ce documentaire sonore en 6 épisodes revient pour la première fois à travers entretiens, sons d'archives, textes d'époque sur la trajectoire de cette figure essentielle de la lutte d'indépendance kanak, encore largement méconnue hors de ses terres natales. Faire entendre son histoire, c'est aussi raconter une époque, celle de l'émergence de la formidable mobilisation collective pour la Kanaky. Et le parcours du vieux Éloi épouse la naissance de la revendication indépendantiste kanak jusqu'à sa révélation au monde au milieu des années 80. C'est un récit qui résonne aujourd'hui, alors que se rejoue inlassablement le devenir de cet archipel français du bout du monde, et à travers lui, tout particulièrement, celui de son peuple premier. Donc vous allez écouter le premier épisode de cette série documentaire qui a été réalisée par Benoît Gaudin avec une musique originale et un mixage de Simon Offray. C'est une réalisation produite par l'association Lampe Tempête. Aujourd'hui, vous allez écouter le cinquième épisode, L'ombre d'Ataï.
On avance, on est mort. On recule, on est mort. Mais il vaut mieux avancer. Ça, c'est sa parole, ça. Toujours avancer. Il faut penser. Il faut aller de l'avant. Il ne faut pas reculer.
Le combat ne doit pas cesser. Éloi Machoro, un super héros pour Kanaky. Un documentaire sonore de Benoît Gaudin. L'ombre qui passe, ici présente, cinquième épisode, se confond parfois aux ombres du passé, l'ombre d'Ataï.
Je pense que vous avez vu par vous-même qu'il n'y a plus aucun barrage ici, dans la localité de Thio.
Éloi Machoro.
Que les routes sont grandes ouvertes à qui veut rentrer à Thio. Que la mairie, on a rendu la mairie les lieux publics ici aux forces de l'ordre, et puis que nous sommes uniquement dans les tribus. On est chez nous, on reste chez nous.
Est-ce que la population blanche peut revenir à Thio, qui paraît une ville assiégée aujourd'hui?
C'est une apparence de ville assiégée, mais le problème pour les blancs comme pour les autres, c'est qu'on a peur quand on a quelque chose à se reprocher. S'ils n'ont rien à se reprocher, bon ben, puis de toute façon, la route, elle est libre.
Donc vous leur dites revenez?
On leur dit revenez. On a déjà, ici pour la localité même de Thio, il y a des gens de La Fleur qu'on a mis sur une liste. Et ils sont six sur toute la population de Thio. C'est ceux-là qu'on ne veut plus voir parce que c'est ceux-là qui ne voulaient pas, qui poussaient les gens à ne pas dialoguer entre eux.
Quand Nick Okewe et Jacques La Fleur parlent de légitime défense, comment est-ce que vous réagissez, vous?
Légitime défense, c'est une... Peut-être, à l'heure actuelle, ils peuvent présenter la situation comme ils veulent. Mais comment est-ce qu'ils présentent la situation du peuple kanak, étranger chez lui, depuis 130 ans de colonisation jusqu'en 1984?
Vous estimez que vous n'êtes pas un fauteur de troubles?
S'il n'y avait pas eu des gens en Calédonie comme des Jacques Lafleur, avec leurs valets, des kanaks de droite comme Dick Ukewe, nous n'aurions jamais été sur le terrain. Le problème pour nous, c'est qu'il y a une situation coloniale à l'heure actuelle, une situation coloniale qui profite à une certaine partie de la population à la bourgeoisie. Et cette bourgeoisie a fait en sorte, par les partis politiques, par leur fric, a fait en sorte qu'il y ait une barrière entre les Kanaks et les non-Kanaks. Si bien que la situation des Kanaks n'a jamais évolué, et à l'heure actuelle, si nous sommes sur le terrain, c'est pour justement faire en sorte que cette situation change.
Est-ce que vous seriez prêt à discuter avec des représentants caldoches?
Avec des représentants caldoches, ça fait déjà, ça a toujours été la devise de l'Union calédonienne, deux couleurs, un seul peuple. À l'heure actuelle, on continue toujours à tendre la main aux caldoches et à tous les non-Kanaks qui veulent vivre ici dans ce territoire, après avoir reconnu les droits élémentaires du peuple kanak. On est prêt, on a toujours parlé de la case. Cette case est reprise à l'heure actuelle comme slogan de la droite. C'est nous qui avons parlé de construire une case où tout le monde vivrait en paix, mais en pays kanak. À l'heure actuelle, on continue toujours à vouloir rester ici avec les non-kanaks qui veulent partager le pays kanak.
Pendant cette période-là, il se trouve là-haut, quoi. Il redescendra pas sur Nouméa, quoi.
Gérald Corto.
Il est sur le terrain. Il organise et surtout, il prend garde à ce qu'il n'y ait pas de débordement.
Je me souviens quand on était à Dieu, il est descendu en bateau jusqu'à Ougnan. Il fait ça, il fait la navette en bateau, hein, puis il circule sans qu'on l'appelle. En fait.
Yvon Conne.
Mais il a des gens avec lui qui. Ils prennent le bateau à Thiou et ils descendent jusqu'à Yaté dans la nuit, quoi. Faire l'information à Thiou, à Yaté, puis ils remontent. Mais il n'arrête pas, il circule, ouais.
Il circule.
Quand nous, on passe l'information, il dit, mais il est où, Éloi?
Arthur ou Panmarama.
Oui, partout. On fait l'information, mais il est où, Éloi? Voilà. Ils ont besoin de voir Éloi. C'est quelqu'un, pour les gens, c'est déjà quelqu'un de symbolique. Ça veut dire, il faut que tu sois là. Les gens ont besoin de le voir.
Et les gendarmes le poursuivent à ce moment-là?
Non. Comment tu poursuis un homme? On ne sait pas. Un jour, il est là, demain, de l'autre côté, on ne sait pas exactement, il est où, il crache où. Bon, on saurait si les gendarmes l'auraient coursé, les gendarmes l'auraient arrêté. Mais pendant cette période-là, jamais personne ne l'a arrêté. Ou à moins que, je sais pas, ou à moins qu'il y a eu des sources d'en haut pour dire de ne pas l'arrêter. Sinon, ça va créer des. Ou y passer à travers les mailles des barrages des gendarmeries, de la gendarmerie, je sais pas.
Jacques Lafleur.
J'ai dit que c'était hors la loi. Qu'il n'y avait pas de raison de traiter à égal avec un gouvernement légal, avec un gouvernement réel. Monsieur Matchoro, il a terrorisé, tabassé, etc. Et que c'est pas acceptable pour personne. Voilà.
Vous demandez qu'il soit arrêté.
Ce n'est pas moi qui me substituerai à l'autorité de Monsieur Pisani. Je demande qu'on fasse, qu'on nous dise pas qu'il y a l'ordre, quand l'ordre n'est pas maintenu.
Mais vous ne reprendrez les discussions que quand Éloi Machoro sera arrêté?
Je l'ai dit ce matin.
Est-ce que vous le maintenez?
Je ne sais pas dans quelles conditions on peut nous amener à un dialogue, dans la mesure où il y a un certain nombre d'exactions qui continuent. C'est clair, c'est simple.
Il y avait une différence entre lui et puis Jean-Marie Timbaou. Même entre lui et puis Yewene.
Camilo Ipéré.
Ces gens-là sont beaucoup plus modérés. Modérés, puis ce sont pas des gens qui vont agir brutalement. Mais Éloi, il était devenu très. Parce qu'il était plus jeune aussi. Puis c'est peut-être. Je sais pas, peut-être que depuis sa sortie du séminaire, il voulait absolument qu'on atteigne un but dans la politique de ce pays, que l'on puisse libérer le pays d'un seul coup comme ça. Puis, peut-être que c'était dans son idée. Mais il ne tenait plus compte de ce que les autres faisaient à Nouméa. Et ça c'est aussi mon point de vue, parce que nous, on restait là à regarder, on était un peu surpris de tout ça. Et Jean-Marie Thibault, il était plus modéré dans ses idées et dans sa façon de faire. Bon, il n'était peut-être pas toujours d'accord avec ce que Éloi faisait, parce que Éloi était brutal, il est devenu un peu brutal avec sa façon de faire. Mais plus personne ne pouvait l'arrêter parce que lui, il agissait de l'autre côté. Et puis, eux n'avaient plus la main sur lui.
Les gens ont tendance à dire que
Ben, c'est pas les gens qui disent ça, c'est les autres, les médias et la droite, ils ont voulu pas croire que. Et le vieux, et puis le vieux Jean-Marie, ils n'étaient pas en bonne entente, hein, mais ils étaient en relation, les deux.
Gaston et Delon.
L'autre gérait le terrain, parce que. Et l'autre gérait les discussions là-haut. C'était ça aussi la stratégie à l'époque. Et puis, toi, ça a toujours été comme ça. Hein. Si on veut faire avancer les choses, il faut toujours descendre sur le terrain. Donc, il faut faire les deux en même temps. Il n'y a que comme ça marche dans ce pays-là. Mais ils étaient assez en bonne relation.
J'ai beaucoup lu tout ça, là, mais...
Gaëtan Soma Dowade.
Ah non. Son leader, c'était le vieux Jean-Marie. À chaque fois, il parlait de Jean-Marie. Quand vous allez lire les interventions qu'il fait au congrès de Tours, là, hein, pour pousser les gens à boycotter. Mais lui, le message qui passe, voilà, c'est pour faire en sorte que Jean-Marie soit fort pour négocier. On fait tout ça pour que Jean-Marie soit fort pour négocier. Les événements de 1984, c'était surtout ça. Qu'on bloque tout et qu'on attend quelqu'un que la France va envoyer pour négocier. C'était Pisani. C'est pour ça que Jean-Marie lève les barrages. Malgré les morts qu'il y a eu chez lui, les frères.
Moi, il m'est arrivé de questionner certaines décisions de Jean-Marie que je ne comprenais pas. Faut dire qu'en politique, hein, il faut aussi bien connaître les choses. C'est avec l'âge quand même qu'on apprend à deviner certaines choses.
Caroline Machoureau-Régnier.
Et chaque fois, la réponse, je pose la question à Éloi. Pourquoi Jean-Marie dit ça? Mais enfin, c'est pas normal, c'est pas logique. Et Éloi me disait, il y a certaines fois où il faut que tu attendes. Certaines décisions que Jean-Marie prend, c'est pas tout de suite que tu vas avoir le résultat. Mais tu verras dans quelques temps. Tu verras les résultats, effectivement, et là, tu comprendras qu'effectivement, il fallait prendre ces décisions-là. Souvent, il m'a dit ça. Et puis, sur le reste, je n'ai jamais entendu Éloi, même mouvement d'humeur ou quoi, parler de Jean-Marie dans un... Il était très proche de Yewene. Sortait de la même génération, plutôt. Mais Jean-Marie, non, c'était... Son mari, c'était le patron, c'était le président du UC, c'était le président du FLNKS. C'était comme ça, il doit être plus jeune que Jean-Marie, quand même, aussi. Il y a ce respect-là, déjà. Ça, c'est quelque chose de fort chez Éloi. Le respect des personnes qui sont plus âgées, parce qu'ils ont une expérience.
Jean-Marie incarne le chef charismatique, le fédérateur. Les penseurs, les visionnaires, Éloi, le guerrier.
Aloisio Sacco.
Ça vient équilibrer, mais c'est ça aussi qui fait la force du Kanak. Le Kanak, avec la colonisation, il s'est forgé plusieurs phases de sa personnalité. C'est celui qui sait s'adapter aux situations. C'est Jean-Marie. Et pourtant, il sait où il va. L'autre, Éloi, incarne l'âme guerrière du Kanak, qui sait dire ça suffit. Voilà. C'est pas un sanguinaire, il a montré. Mais il sait dire non, ça suffit. Voilà les deux phases qui, pour moi, composent la personnalité kanak. Est-ce que c'est la colonisation qui a forgé? J'ai dit oui. Il y a la personnalité kanak avant l'arrivée de la colonisation. T'es un guerrier. Mais la colonisation va façonner une autre phase de sa personnalité. C'est ce que j'ai décrit là. Voilà ce que je voulais dire.
Il m'a fait comprendre après Éloi que là-haut, il y a Jean-Marie Thibault. Nous en bas, on est les soldats.
faut qu'on avance pour qu'il puisse, que lui puisse comment dire, pousser quoi. Voilà. Nous sur le terrain et lui là-haut. Voilà. S'il nous dit d'arrêter, on arrête. S'il nous dit de continuer, on continue. Voilà. Et puis après, à un moment, ok, ben c'est bon. Mais à un moment, on ne sait plus. Ça, c'est peut-être une semaine, deux semaines, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et puis, à chaque fois, il est toujours là. Puis, ouais, c'est quoi? C'est nerveux. Il ne sait pas. Puis, mais le téléphone, il marchait, tu vois. Il y avait un téléphone là, là où on était. C'est le vieux François Bieu qui appelle. Il dit à celui qui est notre standardiste là-bas, là. Il est toujours là. Il nous dit, faut aller écouter la télé ce soir. Faut regarder la télé ce soir. Il y a un message de Jean-Marie Thibault. Voilà. Ok, 7h. À 7h, on se pointe là-bas. Ça, c'est le chef de roue. Où on regarde la télé. Yeah. Voilà. Le journaliste demande à vieux... Jean-Marie. Alors, il y a l'embuscade de Yangen, il y a vos frères. Comment pensez-vous? Comment vous. Il a simplement dit notre lutte est pure et dure, on ira loin. Et puis lui, il m'attend, il dit viens. Viens, ça y est, c'est bon, allez, sors. Tu prends tous les gens d'ici, là, Mérénémé, Ko, La Couenne, Emma, tout ça, là, puis vous allez à Couli. Moi, je rassemble tous les gens de Jelima, Naketi, puis on va à Doni. Attends. J'ai rien compris, là. Tu peux m'expliquer? Il a dit, on ira loin. Faut continuer.
Tu crois que c'était un code entre eux qui était ben convenu? Ouais.
Mais le mot, on ira loin, ben voilà, il faut aller loin, il faut aller plus loin. C'est l'explication qu'il m'a donnée. Je sais pas, il m'a juste dit, voilà. Il faut bouger, on ira loin, il faut bouger.
Compagnon d'Éloi Machoureau, on ne connaît que très peu de choses sur Marcel Monaro. Il est né le 18 novembre 1940 à la tribu de Mien. Il devient le président du conseil des anciens de la tribu et délégué de l'Union calédonienne de la région de Saint-Louis.
Marcel Monaro, je le connaissais, moi en tant que militant de Canala, et je le voyais, c'était un fidèle d'Éloi, une personne mais gentille comme... Si vous demandez partout une personne qui était mais gentille comme pas deux et qui n'était pas un soldat dans l'âme quoi hein, qui avait plutôt plus l'esprit de bien voir les choses d'arrondir les angles vous voyez de pouvoir mais qui n'était voilà c'est comme ça que je le vois
mais Marcel on dirait que lui c'est lui, puis Marcel, puis Éloi, c'était Marcel la force de Éloi. Moi, je vais dire comme ça. Parce que lui, depuis longtemps, il est dans l'usine.
Thomas Dathieu.
Les médias ont dit c'est le bon endroit à Éloi. Moi, c'est le contraire. J'ai dit Éloi, il était la bouche à Marcel Nonaro. Il a dit tous les fonds de pensée, je dis ça, c'est Marcel Nonaro. Il était souligné. Personne ne l'a connu à cause de ça, l'homme de l'ombre. Mais il jouait en. Lui coordonnait avec beaucoup de gens. Lui.
Ils étaient comme l'un des chefs de, à nous, quoi. Nous, on les respectait.
Ils étaient tout le temps ensemble?
Oui, c'est une belle. Ils avaient toujours le contact.
Xavier Tonchani.
C'était toujours côte à côte. Quoi. Quand Éloi, il va quelque part, mais il le contact avec Marcel. Marcel nous appelle, et nous parle, et puis après.
Et puis lui, il était toujours
ce que confirme le chef. Quand tu vois une grande réunion, mais Éloi, il va parler parce qu'il a la parole là, c'est facile.
Yvon Conna.
Puis, mais tu regardes juste à côté, tu as toujours le vieux Marcel qui est là. Mais moi, à mon avis, c'était lui quand même la stratégie. Moi, je pense que c'est le vieux Marcel. Quoi. C'est lui qui définissait les stratégies. Là. Voilà, dis-là, voilà, il confirme. Voilà.
Parce que bon, Marcel, il parle pas devant le public. Quoi, mais Éloi, c'est Éloi qui est le porte-parole, là, Marcel, on va dire ça. Les deux ils sont comment ils se parlent toujours avant de faire quelque chose. Ouais, ils s'accordaient sur le terrain. L'autre est ici à la commune, mais Éloi c'est un peu le gouvernement, le pays. Là, c'est. Marcel c'est ici à la région, à l'air radio.
C'est lui qui a organisé en bas, puis après il va dire à Éloi, voilà, c'est comme ça. Peut-être pas comme ça, c'est peut-être ceci. Voilà. C'était plutôt ce travail sur le terrain qui était à sa portée. Lui.
Chaque fois, ils ont toujours été ensemble. Ils ont toujours été ensemble, bah, vraiment. Mais bon, maintenant, c'est le radio qui parle de l'or, parce que l'or est là. Mais je dis, la force à l'or repose sur lui.
En 1878, à Taï, chef de Comahale, s'adresse au gouverneur français de la Nouvelle-Calédonie. Déversant à ses pieds un sac de terre, il lui lance « Voilà ce que tu nous as pris. » Déversant un sac de pierre, « Voilà ce que tu nous as laissé. » Ainsi démarre la première grande guerre des peuples autochtones contre la colonisation. Depuis sa région de la Foi, sur la côte ouest de la Grande Terre, Ataï et ses hommes venus des quatre coins de l'île mènent le combat et deviennent la terreur des colons.
Je sais qu'il part ici, ce qui part parce que moi j'arrive à Thio pour lui dire au revoir et j'arrive en retard. Il est déjà parti. Il y en a qui prennent la route, mais il y en a qui passent par. Ils prennent des raccourcis en fait. Et puis quand j'arrive à Thio, plus personne. Ils sont tous. Enfin, il y a encore quelques-uns qui sont là. Les femmes sont là par contre. Les femmes n'ont pas suivi. Et puis eux, ils sont partis déjà.
J'avais eu des informations, mais c'était top secret. On disait entre nous, faut pas en parler. Pour une fois, parce que c'est rare qu'on dise ça.
Luc tourna bien.
Qu'il y avait un groupe qui était parti de l'autre côté, puis qu'ils allaient faire des actions là-bas, mais on disait pas trop ce que c'était, on disait pas quand, on disait pas quoi. Et moi, je savais ça parce que j'avais dans la famille de ma femme à l'époque, son frère, par exemple, qui était dedans, quoi, et d'autres copains, des cousins. Qui faisait partie du groupe qui était parti. Mais on savait qu'ils étaient partis avec Éloi. Mais on ne savait pas pourquoi ou exactement. Et donc on se demandait un peu ce qui se passait. On se disait, oui, il y a quelque chose qui va péter, quoi, mais on ne sait pas quoi. On ne savait pas trop quoi, parce qu'il fallait que ça reste secret.
Ben, à l'époque, sur le terrain, moi je le vis avec des barrages de fachos. Hein. Et entre autres...
Jean-Pierre Taïeb, Haïfa.
Entre autres, avec des meneurs qui venaient d'ailleurs, de Canala, de Wailou et autres, qui étaient partis pour certains ou expulsés pour d'autres. Et tous ces gars-là, ils sont réfugiés sur Bouaï, ils sont sur les barrages.
C'est-à-dire qu'on a des barrages Kanak sur la côte est, mais vous, ici sur la côte ouest, les barrages sont des barrages de loyalistes, de milices
ah,
droites.
Bien sûr, bien sûr. Les Kanak chez nous, à Bouaï, sont retranchés dans leur tribu. Il n'y a plus qu'un Kanak au village chez mon premier adjoint. Donc nous, on subit ça. On le subit sévèrement. Pourquoi ? Parce que le fait que vous n'adhérez pas aux gens qui... et à la politique des gens qui sont sur les barrages, vous êtes un indépendantiste qu'il faut abattre. On vit des événements, nous, sur Bouraille. On vit l'incendie d'un magasin qui fait des morts. C'est pas les Kanaks qui mettent le feu au magasin. C'est pas les Kanaks. C'est les Blancs qui mettent le feu au magasin. Qui mettent le feu au magasin, qui approvisionnait les Kanaks et qui faisait du crédit aux Kanaks. C'est un magasin de Blancs. C'est bien dommage que les gendarmes n'aient pas fait leur travail. Que les gendarmes prennent... avait du parti pris. que les gendarmes encourageaient les barragistes.
Alors on se défendra jusqu'au bout.
Fondeur,
jusqu'au bout. Okay. Et croyez-moi qu'il y a du monde qui est d'accord.
Hein. La psychose, elle était totale. Hein. Les gens avaient, dans certains endroits, à l'entrée de Nessadiou, vers le cimetière des Arabes, de l'autre côté, là, ils avaient creusé des tranchées dans la berge pour se protéger de Machoro. Alors on lui disait à Thiot, les gens le voyaient à Bouraille, en même temps les gens le voyaient à Nouméa, c'est-à-dire que les gens le voyaient partout. Il y avait une psychose Éloi Machoro. À partir de l'image qui avait été diffusée très largement du coup de tamioc dans l'urne, les gens voyaient tout de suite Éloi Machoro partout avec son tamioc fracassant la tête de tout blanc qui pouvait sortir. Non, mais c'était démentiel. Et démentiel.
Bon, on voit les mobiles et puis la gendarmerie là-bas chez eux et nous on fera notre loi nous-mêmes. Parce que Machoro fait sa loi là-bas et Machoro en aura sa peau. Et Machoro en aura sa peau. Et qui pense ce gaffe, Machoro en aura sa peau.
Les milices blanches, elles n'ont pas cherché à rencontrer Machoro. Si elles l'avaient cherché, elles l'auraient trouvé. Simplement que pour se donner du courage, la meilleure façon, c'était de se regrouper et penser qu'on était en sécurité quand on était à 50 à se saouler la gueule, à boire de la bière hein, et puis à dire on va tuer Machoro. Voilà. Les gens voyaient le Machoro à Nouméa, ils le voyaient en même temps à Bouraille, ils le voyaient à Waïlou, sauf où il était. Et bien sauf où il était, que jamais personne ne l'avait vu à la fois.
Alors que le chef Ataï et ses hommes enchaînent les victoires, l'armée française trouve une aide précieuse de l'autre côté de la Grande Chaîne, sur la côte Est. Ils parviennent à convaincre les chefs de Canala de venir combattre à leur côté. Cette alliance renverse le cours de la guerre. Le 1er septembre 1878, c'est un homme de Canala qui tue le chef Ataï.
Hello, elle était comme ça. Elle avait un objectif. Pour aller à la fois là-dedans.
Victor Nonaro.
Je me rappelle, il a parlé là-bas. Là. Il me disait qu'on allait à la fois pour couper la Calédonie. On bloquait la fois. Il parlait aussi de l'indépendance au bout du souci.
il parle de ça, mais en même temps, il n'y a pas de coups de fusil qui sont tirés.
Non. Ça, c'est pas vrai. Ça. C'est pour la sécurité, quoi, la sécurité à nous, quoi, en cas où ça va dégénérer.
Mais tout ça, c'est lui qui a organisé. Il a dit qu'on va là-bas, mais on désarme les Européens.
Régis Toura.
Mais on les tire pas dessus. C'est juste pour qu'eux, ils nous tirent pas dessus. Pour les désarmer. Il faut qu'on les désarme pour qu'eux, ils nous tirent pas dessus. Après, il faut les désarmer les Boules Paris, la foi. Après, on continue. Continue jusqu'à Nouméa. C'était son itinéraire.
Le jour qu'on va bloquer à la fois, on va essayer de rassembler les Européens de la fois qui sont avec nous et puis marcher vers Bouraille. Bouraille, pendant les événements, c'était tout bloqué. Bouraille, c'était le fief des gens qui sont contre l'indépendance.
Gaëtan Soma Dowade.
On va marcher sur Bouraille et puis vous, du nord, vous allez descendre sur Bouraille. On va se concentrer sur Bouraille, puis on va leur dire que voilà, la lutte aujourd'hui, on est en train de se battre, mais c'est notre lutte, c'est la même lutte. Voilà. Il y a quelqu'un là-haut qui fait qu'on se bat, nous. Et cette personne-là, il est en train de charger les minéraliers là-bas, à Ouazengo, là-bas. Bon, il parlait de la fleur à l'époque. Voilà. Il est en train de charger les minéraliers à la SLN parce que les centres miniers sont bloqués, et lui, c'est lui, qui charge, qui ravitaille les fours de la SLN. Et nous, on est en train de se battre alors qu'on a les mêmes. On vit les mêmes choses tous les jours. Voilà. C'était un peu ça. Barrer de la foi, marcher sur Bouraille, puis les gens du Nord descendent sur Bouraille.
Il y a des points, il faut qu'on descende la voie. Il faut continuer la mobilisation. Ça, tu on a fait le barrage, je dans mon tu vas à la voie. Tu choisis 10 équipes de 10. Lui, avec le vieux mari, là. Lui, qui me disent, mais des durs, hein. Pas des femmelettes comme ça, là, qu'on dit de lever l'embarras, ils lèvent, ils savent pas ce qui me dit.
Thomas Dathieu.
Nous envoyons à la fois, moi, puis Berger Pérignou, avec le grand frère. On a été là-bas chez nous, on est resté 2 soirs. La nuit, comme ça, on circule à la fois pour faire les repères, faire le plan, tout ça. Puis pour placer les 10 équipes de 10 qu'on devait rentrer là. Et puis, on a coordonné, tu vois. L'embarras filtrant là-haut. Mais là-bas, on rentre à la fois. Et on était 120. 10, 12 équipes de 10. Nous, on était déjà. On rentre à 6 heures du matin quand les mobiles ils lèvent l'embarras à. Quand les mobiles ils lèvent l'embarras à Fonvary. Ils vont. Quand ils lèvent l'embarras, nous, on rentre. Mais tous les voitures étaient stationnées à Saramea, Kouli. Puis entre-temps, on voit les voitures qui rentrent, les mouvements, mais après 8 heures, on voit plus en haut, parce qu'on est déposé dans des endroits. Chacun, équipe 10 là, équipe 10 là, tu as partout.
Et là, lui, il va prendre les sentiers de ses vieux à lui, avec, avec ceux de Gélima, avec ceux de Nakedji. Eux, ils avaient beaucoup plus de relations avec Wipoin, avec Kwandé, pour traverser. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lui, il est passé de l'autre côté. Et comme nous, dans les fonds avec eux, là, on a beaucoup plus de relations avec sa mère, avec les gens de sa mère. C'est la raison pour laquelle, avec Chauman d'ailleurs, là, on était à sa mère. Et on a fermé les deux extrémités. Là, voilà. On avait non seulement la, comment dire, on s'est basé aussi sur nos liens. Aussi. Il n'y a pas uniquement pour le côté, on va dire, pour le côté boycott, pour le côté revendication. On avait aussi des. On se base aussi sur ce que nos vieux, ils ont. On jouait sur le tableau à la fois.
Culturel.
Ah,
culturel. Le chemin de la coutume aussi.
Le chemin de la coutume aussi, voilà.
Il y avait des complicités à la fois, c'est la plupart. Mais il y avait les gens de la foi, déjà. Des tribus environnantes. Et puis, il y avait les Blancs. Il y avait une bonne organisation des certains colons, des indépendantistes aussi, Blancs, qui étaient à la fois et qui avaient mis en place un réseau quand même.
On a aussi avec les Thio, il y a des Européens Thio qui ont compris. Il suffisait qu'il y ait des Européens qui comprennent. Voilà. Et aller vers la foi, pour faire comprendre aussi aux Européens de la foi, c'est les victimes de l'histoire. Vous êtes comme nous. À l'époque, vous êtes venus comme des bagnards, comme des machins. Vous êtes comme nous, on est même. Hein? La France vous a rejeté. Le combat, c'est pareil que nous. Et nous, on vous accepte. Hein? Si plus tard, l'indépendance, vous aurez votre chez vous ici. Voilà. Et ça, on arrive à la fois. Et on commence. Il a fait des réunions avec des Européens là-bas. Voilà. Nous, on a habité chez des Européens là-bas. Il n'y a pas de Kanak là-bas dans le village.
Oui, mais moi,
mais là, il explique là, qu'ils étaient en. Quand tu sors de la foi, quand tu sors de la foi, tu as un fameux point, il s'appelle Founimoulou. Mais juste après ce point-là, là, ben, y a une partie qui était là, dont lui. Ben, ils étaient hébergés par une dame, dont son mari, c'est un Allemand. Et cette dame-là, il prenait partie du FLN. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont hébergé. Alors elle va montrer les traces de. Les traces de fusil, les traces de. Ils sont rentrés chez elles, puis ils ont tout massacré dans la maison. Quoi.
Les milices,
oui. Ça, c'était pendant la mort de Pierre Leclerc, ça. Puis cette dame-là, il les a hébergés. Là.
Il nous a hébergés, parce que comme sa grand-mère, c'est une vieille canaque.
Berger Pérignon.
De Boulevard.
Il
C'était un endroit sûr. Personne ne savait que Eloi était caché là-bas.
C'était bien passé parce que c'est dans la voie même. Oui. La première réaction des gendarmes, c'est quoi? C'est de chercher les, enfin, les eux là, dans les fonds, dans les endroits reculés, dans Andoni. Ou... Mais lui, il a bien calculé parce que lui, il est, c'est... D'après lui, jamais ils vont chercher à l'intérieur de la foi. C'est toujours en dehors. Là.
Dans la journée, on est là-bas avec le vieux allemand là-bas, là. Puis le soir, on sortait un peu en cachette, quoi. Sans nous faire voir, quoi. Et surtout le soir, des fois, quand il fallait faire des réunions avec comme, Thomas Dathieu, tout ça, ils se voient toujours pour parler un peu de la tactique ou je ne sais pas trop quoi. Là. On sort toujours le soir.
C'était pour préparer la prise de la voie.
Louis Machoureau.
D'abord, impressionner les chiens, puis tout ça. Et bien, ils se rendent compte après que comment ça se fait que les chiens sont imposés. Ils ne savaient pas ce qu'ils avaient. C'était pour, comme on a fait à Thiol. Bien préparer le terrain, puis après. Puis on avait l'autre équipe là-haut, puis l'autre équipe à Saramial.
Ils m'ont envoyé faire un truc à la fois. Puis il m'a dit, faut que tu ailles chez Enger. C'est là que j'ai su que les autres étaient cachés là. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas ici, là.
Nazaire Sao.
Puis j'ai aussi à Enger. Nazaire, tu ne peux pas monter parce que l'autre. Moi, je peux passer. Tu connais, moi, je ne suis pas... C'est là que j'ai vu. Merde, mais voilà. Mais ça fait longtemps qu'eux, ils ont préparé, mais nous, on ne savait pas.
Nous, on savait bien de toute façon. On aurait une place en Calédonie. On n'a jamais rien fait aux Kanaks dans ma famille. On a toujours respecté les Kanaks.
Yves Enger, habitant de la foi.
Mon père est élevé à Kanala. Il a passé sa jeunesse à Kanala. Mon père parlait la langue de Kanala. Ma grand-mère et mon grand-père, ils parlaient la langue de Kanala. Ils habitaient là-bas. Mon père a été élevé là-bas, avec les Kanaks. Ils les connaissaient tous. Tous les Kanaks de Kanala connaissaient papa. Il s'arrêtait à la maison déjà à l'époque, chez moi, pour voir papa, parce qu'il le connaissait. Donc on a été élevés avec les Kanaks, on n'a jamais rien eu contre eux. On les a toujours respectés, ils nous ont toujours respectés. Moi je savais bien que la Calédonie, de toute façon, si on devait faire quelque chose, on pouvait le faire ensemble. Même une indépendance, on pouvait très bien faire une indépendance avec eux. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. On a milité avec mon épouse dès qu'on s'est marié en 1965, on a milité à l'Union calédonienne. Et c'est là que j'ai rencontré Éloi lors des différentes réunions que l'Union calédonienne faisait. On suivait les réunions partout en brousse et j'ai bien connu Éloi lors des réunions. Après on s'est rencontrés chez moi souvent, quand il passait pour aller sur Nouméa, il s'arrêtait à la maison à la fois. On a beaucoup discuté, on s'est bien connus, très bien connus. C'était un bon ami. J'aimais sa franchise. Bon, moi, je trouvais qu'il était un homme brillant. C'était, chez les Mélanésiens, c'était quelqu'un qui ressortait, quand même, à l'époque.
Pourquoi ?
Parce qu'il était très intelligent, il s'exprimait très bien. Il avait un bon parler, il s'exprimait très bien, très clairement. Il est arrivé chez moi, puis à minuit.
Le 7 au soir.
Voilà, la nuit du 7 au 8. Voilà, le 7 dans la nuit. C'était 2h du matin. Ils sont arrivés à pied, ils ont descendu la rivière de la foi. Depuis Donny, où ils étaient, Donny à la bachellerie, il a pris de la rivière, ils ont descendu à pied.
Ils étaient combien à peu près ?
15, une quinzaine, 14, 15.
Il est arrivé, c'était une surprise pour vous de
le
voir arriver.
Très surpris, ben, oui, je comprends. Ils avaient faim, ils avaient pas, c'était parti depuis 3 jours, ils avaient faim, ils n'étaient pas baignés, ils avaient besoin de se baigner, ils avaient faim, ils avaient sommeil. Ils voulaient dormir, ils voulaient bien manger, on leur a fait un bon repas. Ils ont bien mangé, ils ont bien douché, ils ont bien pu se reposer après. On leur a donné des matelas, ils sont tous reposés, ils dormaient comme des... tellement qu'ils étaient fatigués, ils étaient crevés d'avoir marché, traversé toute la chaîne à pied comme ça pour venir jusqu'à la foi. C'était pas rien. Il avait 4 naketi. Et moi, il m'a demandé quand même, il m'a dit, on arrive, mais t'es pas obligé de nous recevoir. Si tu veux pas, je pars. Alors j'ai dit, non, Éloi, tu es là, tu restes. Tu es mon ami, je ne laisserai jamais mes amis. Tu sais que je suis traqué, je suis. J'ai tout la gendarmerie à mes fesses. Je dis, je sais, Éloi, mais reste là. Tant que tu es chez moi, c'est chez moi, personne ne viendra là. Même les gendarmes, ils rentreront pas là, c'est interdit, c'est chez moi. Viens, assois-toi, on va te servir le café. Tu vas manger, tu vas bien dormir, après tu vas aller vous doucher. Tu restes là. Très poli, il voulait pas s'imposer, quoi. Hein. Mais il était. Lui, il était. On aurait dit, c'était un fugitif, quoi. Il était traqué. Il savait que même en venant, comme ça, il risquait de se faire descendre parce qu'il savait qu'il y avait des milices sur la voie et tout. Il dit, on risque de rencontrer une milice et puis ils vont nous. Machin, parce que les milices elles-mêmes le disaient, il l'a écouté lui-même à Éloi. Un des miliciens qui disait à un autre, attention, tu sais qu'à Nouméa, il y a un sponsor qui a déposé 1 million CFP pour celui qui flingue Éloi. Celui qui flingue Éloi, il va là-bas, il a 1 million, c'est un sponsor qui a déposé. On savait que c'était le sponsor, le grand patron de la Calédonie. Il n'y avait que lui qui va s'en pour faire des choses pareilles. De toute façon, Morini, c'était son bras droit. Et Morini, c'était le chef de toutes ces milices. Hein. C'est lui qui menait tout le monde. Il l'appelait l'amiral. Et quand Éloi était là, quand Éloi était à la maison, on était surveillés par la gendarmerie. L'hélicoptère de la gendarmerie venait passer à ras du toit de la maison pour regarder bien s'il voyait quelqu'un.
Vous pensez qu'ils ont vu qu'Éloi était chez
nous ? Non, je crois pas. Non, il était bien caché, non. Lui, il sortait pas, non. Il sortait pas. Il était toujours à l'intérieur de la maison, il faisait attention. Il faisait très attention parce qu'il savait qu'il était surveillé. La gendarmerie, ça n'inquiétait pas. C'est les milices qui ont fait peur. La nuit, il partait à pied dans le village pour repérer. Parce qu'il avait un plan du village, mais il n'avait pas été voir sur place. Alors, comme il ne pouvait pas aller la journée, ils allaient la nuit. Il y avait 3 équipes qui partaient à pied la nuit. Ils tournaient toute la nuit dans le village. Et ils ont tout repéré, les rues du village, les maisons et tout. Et ça, ils l'ont fait sans être vus par les miliciens. Pourtant, il y avait des miliciens. Ils ont réussi à passer à travers les mailles. On a discuté pendant des heures et des heures. Son plan pour la fois, c'était de récupérer, comme il l'a fait à Thio, récupérer toutes les armes, parce qu'il s'est aperçu qu'à la fois, c'était le nid des miliciens. Il a su, c'est que une organisation s'était créée à la fois avec des gens de Nouméa, et ils avaient placé 1000 fusils à la fois. Des gens de Nouméa qui avaient amené leurs fusils à la fois chez des personnes pour l'encercler. Ils se doutaient qu'il allait venir sur la fois.
Ils doutaient que
l'on allait venir sur la foi. Alors ils avaient caché 1000 fusils dans 3 maisons à la fois. Et ils devaient arriver tous en camionnette de Nouméa, puis faire un cercle et enfermer Éloi et le flinguer, quoi. Nous, il y avait une organisation de cibistes. Chaque véhicule de Nouméa avait un cibi. Et chaque habitant de la foi avait un cibi dans la maison. Et ils parlaient entre eux. Il y en a qui avaient la langue un peu trop longue. Alors on apprenait des choses, quoi. Il y a des jeunes qui parlaient, qui savaient pas s'arrêter, quoi. Alors on a appris que chez un tel, il y avait tant de fusils, chez un tel, il y avait tant de fusils. Quand Éloi, il voulait pas tellement croire quand je lui ai raconté ça. Alors on a mis les cibis en route. Mon fils, il avait un récepteur, un scanner qu'on lui avait prêté, quelqu'un lui avait prêté. Ces trucs, un appareil formidable. On trouvait toutes les radios en quelques secondes avec le scanner. Alors on lui a fait écouter, il a écouté. Il a vu qu'il a su tout leur plan. Ils étaient sûrs de ne pas le rater s'il était là. Mais ça, c'était en fonction d'arriver d'Éloi. Dès qu'ils savaient qu'Éloi était à la foi, ils menaient l'opération. Et ils savaient qu'Éloi allait rentrer sur la foi. Alors lui, son objectif, c'était prendre tous les fusils. C'est ça l'objectif principal. Après, c'était de couper la Calédonie en deux à la fois. Ils voulaient faire sauter le pont de la fois. Couper la route et faire sauter la ligne électrique, couper l'électricité pour casser l'économie à la fois. Que lui, il m'a dit, l'indépendance, on ne l'aura pas autrement que par la force. On ne l'aura pas que la parole, jamais. l'indépendance, si on veut, il va falloir qu'on laisse des pots. Il faut qu'on l'ait par la force. Il n'y a rien à faire. Donc, si on la veut par la force, on va être obligé de laisser nos vies. Il n'y a rien à faire. Jamais la France va lâcher la Calédonie. Alors, la discussion, elle ne sert plus à rien. Maintenant, moi, je ne crois plus à la discussion, je crois à la force. Alors, je dis, mon objectif, c'est couper la Calédonie en deux. Comme ça, les mines, tout ça, c'est bloqué. Que toutes les mineurs, tous les gars qui travaillent sur mine, là, ils partent de Nouméa tous les lundis pour aller sur mine. Et on va les couper à la fois, il n'y aura plus de route. Si on coupe le pont de la fois, il n'y a plus de route, il n'y a pas de route adjacente, rien, on ne peut pas. Voilà, il faut faire le tour par la côté, ça fait trop loin, quoi. Par Thio.
Alors qu'il était quand même déjà dans l'air du temps de lever les barrages, Éloi, lui, passait une vitesse supérieure quelque part.
Luc tourna bien.
Et c'était aussi un groupe armé qui allait sur un village européen, mais où il y avait beaucoup... qui n'était pas entouré de Kanaks comme Thio. À Thio, il avait un équilibre ethnique relativement. Sur la foi, c'est une autre paire de manches quand même. Mais, et puis je parle de stratégie guerrière parce que au niveau de la logique guerrière, entre guillemets, si tu coupes la RT1 vers le nord et que tu tiens la RT1 vers le nord, tu tiens toute la côte ouest avec tous les Européens, tous les Caldoches. Après le ravitaillement, il n'est plus possible que par avion ou par bateau. Donc c'est énorme ce qui se fait là. Et quelque part, je ne sais pas s'il a mesuré à quel point c'était important, énorme, et à quel point, ça allait susciter même une réaction de l'armée, quoi. S'il bloque la RT1, l'armée aurait voulu déblayer ça, parce que c'est le cordon ombilical pour tout le reste. Et je ne sais pas ce qu'il avait envisagé pour les jours d'après. Ça m'intrigue, j'aurais bien aimé lui demander. Bon, mais moi, je n'étais pas dans la confidence. Hein. Mais, parce que, ok, tu fais ça, symboliquement, c'est énorme. Mais soit tu te retires après, tu fais un peu comme le symbole de la hache, et là je pense qu'on ne le saura jamais non plus. Hein. Parce que moi, les copains que j'ai revus après, et qui m'en ont parlé, ils n'en savaient pas plus que moi, parce qu'il y avait cette culture du secret, et après ils se sont dit, bon ben on fait confiance à Éloi, et on va faire ce qu'il nous dit de faire, parce qu'on a confiance en lui. Là on en était un peu à la stratégie guerrière, parce que comme c'était une opération très gonflée, du coup, tous les gars qui étaient là-bas n'étaient pas tous au courant de ce qui allait se faire exactement.
Si Éloi, enfin moi c'est, j'en suis persuadé, c'est que si Éloi était parti, comme certains le disent, pour aller occuper, pour aller tuer, il ne se serait sûrement pas exposé comme il s'est exposé lorsqu'on lui tire dessus. Il serait resté en permanence caché, il aurait fallu le sortir. Donc lui, quand il s'expose, quand il navigue là où il se fait tuer, c'est parce que pour lui... les gendarmes ne vont pas... Dans son esprit, je suis persuadé que dans son esprit, le connaissant bien, dans son esprit, c'est bon, les gendarmes vont être là, ils vont faire des choses, on va aller discuter, on va aller... Et puis voilà.
Gérald Corto.
Je me dis... Enfin, pour moi, ça a toujours été clair dans ma tête, quoi. Hein. Je me dis... Qu'Éloi, il y a une part de naïveté d'Éloi quand il se fait tuer, quoi. Voilà. Pour lui, c'est le bien fondé de faire ce genre de choses, ça va rendre service. Ça va rendre service à Pisami, ça va faire voir qu'en fin de compte, il raconte pas d'histoire quand il dit les gens se sont armés jusqu'aux dents. Voilà. Et il pense pas qu'en fin de compte, ça peut être analysé d'une façon différente et qu'en face de lui, il y a aussi peut-être des gens qui ont envie de prendre une revanche, quoi. C'est voilà où je place la naïveté, moi.
Je rencontre Éloi Machoro chez un ami le 8 ou le 9 janvier.
Jean-Pierre Taïeb, Haïfa.
On a passé un moment, on a bulleté. et je l'ai dissuadé. Essayer de le dissuader, de lui dire, pas de lui faire comprendre, mais de lui dire qu'il y avait un risque pour lui, un risque pour sa vie, et lui rappeler que Jean-Marie disait qu'un homme mort, ça ne sert plus à rien. On savait qu'il y avait une liste de gens à éliminer, on savait aussi que... il y avait quelques mercenaires qui étaient ici. Donc, rien ne me laissait supposer que son assassinat pouvait être imminent. Mais ça laissait aussi penser qu'il y avait un danger. Quand on est à ce niveau-là, on est en danger. J'essaie de le convaincre de rentrer et surtout d'arrêter les prises de risque. Et c'est ce qui... Bon.
Qu'est-ce qu'il répond, lui? Dans quel état d'esprit il est?
Ben, lui est dans un état d'esprit de dire aujourd'hui l'extrême droite calédonienne prend le dessus. Le gouvernement n'est pas avec nous, donc nous n'avons aucune chance de faire avancer notre revendication que par la déstabilisation. Et bon, c'était censé, hein, sa remarque était censée. Les discussions, les comment, les Éloi Machaud n'y croyait plus.
Après la Grande Guerre de 1878, poussés par la colonisation, des clans de la région de la Foi sont contraints de s'exiler. Beaucoup traversent la chaîne centrale et s'installent du côté de Canala.
Alors moi, je lui ai dit, mais Éloi, tu te rends compte que si tu fais ton opération, tu auras 1000 fusils contre toi. Ils vont pas te faire de cadeaux. Vous n'allez pas faire de cadeaux, vous allez faire de la boucherie. Éloi, c'était un grand catholique. C'est un grand catholique. Il était très croyant. Très croyant. Alors, il me dit, tu sais, Yves, avant de prendre une décision maintenant, moi, je suis très catholique. Je prie toujours avant de prendre une décision. Je prie. Et après, je prends ma décision. Ma décision, elle est guidée après. Quand je discutais avec lui pour le dissuader de faire son opération sur la foi, là, plusieurs fois, il a pleuré. Il m'a dit, je le ferai pas parce que, de toute façon, je suis trop catholique pour faire une chose pareille. Parce que maintenant, je m'aperçois qu'il va y avoir un massacre, alors je le ferai pas. Je le ferai pas. Je te comprends. Je te comprends. Il me dit, tu as pas raison, mais je te comprends. Parce qu'il dit, c'est moi qui ai raison. L'indépendance, si on la veut, nous les Kanaks, c'est par la force. On l'aura pas par la parole, c'est pas la peine. On l'aura que par la force.
D'autres témoins de l'époque pourront affirmer que Éloi Machaureau s'était rendu compte que la prise du village de la Foi était périlleuse, très vite problématique et donc impossible.
Olivier Houdin, historien.
Et que lorsqu'il se replie sur Dony, en fait, il a décidé de se replier sur Thiou, de repartir sur la côte est. Et lorsqu'ils sont surpris le matin du 12 janvier au lieu dit Dony, ils sont sur le départ. Ils ne sont pas sur une volonté d'attaquer ou de bloquer de manière définitive, hein, la Grande Terre en deux, dans un axe Thiou la Foi.
Il m'avait dit que voilà, si on doit bouger, c'est tout le monde. C'est toute la Calédonie qui doit bouger.
Nazaire Assao.
Tu vois, pour nous soutenir. En même temps. Tout le monde bouge en même temps. Pour qu'il puisse aller enlever les fusils à la fois dans le village.
Quand il voulait dire tout le monde doit bouger en même temps, c'est-à-dire tous les...
Toute la Calédonie, ils doivent bouger le jour là. Mais... parce qu'on a envoyé des messages là, partout. Voilà.
Et les gens étaient prêts à bouger?
Ah ben oui, les gens étaient prêts.
Donc il manquait plus que le feu vert.
Voilà.
Et ça c'est Éloi qui devait le donner?
Voilà, c'est lui.
Il n'a pas eu peur, il s'est pas dit ça va tourner au massacre, il vaut mieux qu'on rentre sur Canala et qu'on fasse une autre opération?
Non.
Donc ça veut dire que quand il part de chez Yves le 11, Éloi, il veut toujours faire l'opération.
Ah oui, il faut passer un coup de poing. Voilà.
L'ombre qui passe, ici présente, se confond parfois aux ombres du passé.
Pour moi, il y a deux personnages les plus importants historiquement, c'est Attaï et Macho.
Gustave Théillot.
Ils ont marqué l'histoire du peuple Kana. Ils ont montré que ils sont capables de faire don de leur vie. Et je pense que le point le plus fort de Attaï et de Éloi Macho, c'est ça. Montrer aux jeunes que l'essentiel, c'est l'évolution du peuple Kana. Il faut obtenir des résultats. Voilà, c'est ça. Non, pour moi, Attaï est point de vue héros de la guerre, entre guillemets, c'est Attaï et Éloi Macho.
Vous trouvez que cette comparaison-là, vous trouvez qu'elle fait sens ou c'est du folklore? Comment?
Non, elle fait sens.
Yvon Kona.
Elle fait sens. Si aujourd'hui, les gens ils continuent à mettre les t-shirts, ça veut dire qu'il y a un sens de... Aujourd'hui, tout le monde se revendique des lois, tout le monde se revendique de... Même si on sait que le passé à des zones Kanala, il était à... 100 ans en arrière, il était du côté de la... Comment dire? De la colonisation, mais... Je pense que après la mort du vieux, après ce qu'ils ont enduré, je pense qu'il y a eu un début de réconciliation là. Nous, ce canal là, ben on est venu prêter main forte à la pour mater la rébellion à la poêle, ceux qui se sont soulevés à la poêle. Tu sais que Marcel Donaro, c'est un clan de la poêle, de la région de Pocreux. Ça, c'est l'histoire, tout le monde connaît. Et il va se faire, ils vont partir par la force des choses, ils vont partir sur ce rébut. Ils vont partir sur Canala. 100 ans après, qu'est-ce qui se passe après? On ne sait pas les discussions qu'il y a eu entre Éloi et Marcel pour récupérer les terres. Moi, c'est la vision que j'ai maintenant, quoi. Pour récupérer les terres à Marcel. Et il était son second dans les périodes des événements de 84. Il était toujours là. Donc moi, je ne sais pas la teneur. Il devait y avoir des discussions entre Éloi et Marcel. Et il n'y a pas non seulement Marcel, aussi cette famille-là, mais il y a eu une autre aussi. Beaucoup de gens de la foi qui sont au Canada maintenant, là, mais qui étaient avec Éloi dans cette fameuse, dans la mobilisation de 84. Est-ce que c'était pour la récupération de terres, des terres Oui. Est-ce qu'il y a eu des discussions entre Éloi et Marcel pour la récupération des terres, certainement oui, mais au moins, je l'avance, c'est parce que c'est la manière dont on peut parler maintenant, parce qu'il y a 40 ans après, quoi. Mais je pense qu'il y a eu une discussion avec Éloi et le vieux Marcel pour récupérer la terre sur la foi, quoi. Donc aujourd'hui, mais les terrains sont repris, d'ailleurs, ils sont repris là, aujourd'hui. Ils reviennent du Canada pour se réinstaller dans les fonds de Pocreux, parce que ça, c'était leur terrain, tout le monde connaît. Hein. Plus du fait qu'on connaît que les Monaro avec une certaine partie des gens qui sont là-haut à Mia aujourd'hui, mais ce sont des gens qui sont partis après la révolte de 78. Quoi. Il y a une suite, oui, il y a une suite. Il y a un lien, tout simplement. Quoi. Pourquoi on l'a tué? Il est mort parce qu'il voulait récupérer les terres à son compagnon, tout simplement. Quoi. Ce que je peux en tirer comme conclusion d'affaire. Parce que son lieutenant, c'était qui? C'était Marcel. Quoi. Il est mort en se battant pour son compagnon. Tous les deux, ils sont morts. Quoi. Moi, pour récupérer la terre qui a été laissée abandonnée 100 ans en arrière dans la révolte de 78.
L'ombre qui passe.
J'ai vu, ils ont mis des barrières, des limites, quoi, en bas de la chaîne centrale. Et Éloi, il va se faire tuer à l'autre bout là-haut. Et l'autre bout là-bas, ben, c'est là où habitait,
Attends, et il va se faire tuer là. C'est des choses que. C'est des coïncidences, mais.
Ne doit pas cesser. Elon Machoro, un super-héros pour Kanaki. Cinquième épisode, l'ombre d'Ataï. Un documentaire sonore de Benoît Godin. Musique originale et mixage, Simon Auffray. Avec les voix de Yabé Lapachas, Jean-Louis Coroma. Poème extrait du recueil « Entrevoir les mots des murs » de Denis Pourawa. Avec le concours de l'Agence de développement de la culture Kanak, Yvon Kona, Emmanuel Chibaou, Alain Tchoupit, Karine Dervieux. Merci à Diana Machoro, Jean-Pierre Taïeb Haïfa, la famille Godin, Louise Baldini et toutes celles et ceux qui ont soutenu la création de ce documentaire. Archives, INA et ADCK. Une production Lampe Tempête. La suite dans le prochain et dernier épisode, Mourir debout pour Kanaki.
Vous venez d'écouter l'épisode 5, L'ombre d'Ataï, de la série Le combat ne doit pas cesser, Eloi Machoro, un super héros pour la Kanaki. Donc c'est un documentaire sonore de Benoît Godin avec une musique originale de Simon Auffray, une production de l'association Lampe Tempête. La suite et fin de cette série la semaine prochaine sur les ondes de Radio Galère.